une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Reste un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SMJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et aujourd'hui je vous présente un épisode très spécial. Et oui, le tout dernier de cette saison.
Oh non !
Tout au long des 173 épisodes de ce programme, et oui quand même, on a passé notre temps à combattre des idées reçues, des prénotions comme disent les sociologues. Non, l'immigration ne coûte pas trop cher à la France. Oui, on peut combattre l'évasion fiscale. Non, les chômeurs et les chômeuses ne sont pas des assistés qu'il faudrait contrôler en permanence, etc. Et pour finir en beauté, on a voulu saluer celles et ceux qui n'ont toujours pas compris. Attention, on n'est pas là pour se moquer des gens qui s'intéressent un peu à l'économie et qui commencent tout juste à faire le deuil de leurs préjugés. En revanche, quand vous avez 30 ans de carrière politique derrière vous, ou quand vous êtes censé représenter ce qui se fait de mieux comme journaliste, vous n'avez plus d'excuses.
Ça va chier !
Et donc, vous méritez un prix. Le prix de la nullité du débat public en économie. Le prix de la confusion, de la fausse naïveté ou carrément du bon gros mensonge idéologique.
Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite.
On a appelé ça les Gérards de l'écho. Aucun rapport avec Gérard Depardieu. On a juste pris exemple sur les Gérards du cinéma. Donc, vous l'aurez compris, les catégories sont hautement subjectives et les nominations aussi. Sans plus tarder, je laisse la parole à Robin, que je ne présente plus, vous le connaissez. Allez, si, pour garder les bonnes habitudes, Robin Lemoine, journaliste indépendant spécialisé en sciences économiques et sociales.
Merci Manu. Alors moi, je vais vous parler de notre cher président de la République qui a repris tout doucement, tranquillement, une phrase, un argument venant tout droit de la droite, voire de l'extrême droite. C'était il y a à peine 3 mois, au micro d'Hugo Travers, alias Hugo Décrypte. Ça concerne le climat et plus particulièrement la responsabilité de la France dans le réchauffement climatique.
La France, c'est à peu près 1% des émissions. Nous, on fera notre effort. Si on veut que la planète s'en sorte, où est le cœur de la bataille internationale? Parce qu'on fait partie des pays leaders sur ce sujet. La sortie du charbon, la sortie du pétrole. Si on arrive à ce que les grands émergents sortent du charbon, une bonne partie de la bagarre est gagnée.
Cette phrase, elle a été utilisée par les plus grands experts du climat. Hanouna, Bardella, Éric Zemmour ou encore l'économiste Emmanuel Le Chypre qui disait en 2021 « Quand on émet 1% du CO2, je veux dire, on peut se détendre ».
Désolé Manu, on sait que tu nous aimes bien, mais là…
Allons-y directement. En fait, c'est vraiment un argument à la con. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la journaliste Camille Cronier qui avait dit ça dans sa chronique « Camille passe au vert ». Bon, pourquoi ? Alors oui, la France, c'est 1% des émissions mondiales en 2022. La Chine, c'est environ 30%, les États-Unis 14% et l'Inde 7%. Alors, c'est quoi l'intérêt pour la droite et Macron de dire « oui, la France, c'est que 1% » ? Eh ben, de dire que nous serions de bons élèves, que tout effort de notre pays visant à limiter ses rejets de gaz à effet de serre, ça ne sert à rien, et que c'est surtout la faute des Chinois. Bon, plusieurs choses à dire. D'abord, ça voudrait dire que tous les pays qui ne représentent que 1 ou 2% des émissions ne devraient pas se bouger. Bah, en fait, si on les prend tous ensemble, ils représentent la première source mondiale d'émissions, environ 40%. Donc, si on prend cet argument, le futur de l'humanité, eh ben c'est ciao, comme dirait Squeezie. Ensuite, il faut dire que cet indicateur est un peu trompeur. D'abord parce qu'en Chine, bah, ils sont plus nombreux. Et puis surtout parce que ce 1% ne prend en compte que les émissions territoriales, en gros ce que la France émet, et pas les émissions induites par ce que les Françaises et Français consomment. Exemple, votre téléphone produit en Chine, bah, la pollution induite par la production de ce téléphone, le pays qui importe, est en partie responsable. Il faut donc prendre aussi les émissions importées. Un meilleur indicateur qui est calculé par habitant et qui prend en compte ces émissions importé s'appelle l'empreinte carbone. Eh bien, l'empreinte moyenne française est d'environ 9 tonnes d'équivalent CO2 contre 7,5 pour la moyenne mondiale. Et sur ce point, l'Europe et l'Asie de l'Est, dont la Chine, sont quasiment ex aequo. On peut ajouter que le CO2 reste des centaines d'années dans l'atmosphère, entre 300 et 1000 ans selon la NASA, et continue donc de dérégler le climat. Si l'on regarde les émissions de CO2 territoriales cumulées entre 1850 et 2021, la France est le 12e plus gros pollueur mondial. Elle n'est donc pas le pire pollueur historique. Les États-Unis sont loin devant, suivis par la Chine, puis la Russie. Mais elle est loin d'être la championne du climat. Si on ignore les émissions historiques, on ignore la responsabilité des pays riches vis-à-vis des pays pauvres et on fout à la poubelle l'idée de justice climatique. Alors bien sûr que des territoires vont devoir faire plus que les autres. Mais dire « oui, non, la France, nous, on n'est pas responsable », de un, c'est faux, et de deux, c'est irresponsable. Tous les experts du GIEC le disent. D'autant que la France subit elle aussi les effets du réchauffement climatique, qu'il faut aussi s'intéresser à la chute de la biodiversité dont l'Europe et la France sont largement responsables, et que notre pays a un poids diplomatique important.
Du coup, on va planter des arbres, c'est ça la solution ?
Ah ouais, trop bonne idée. J'y avais pas pensé avant.
Et non, ce serait malhonnête de dire que la France ne fait rien du tout et qu'elle ne fait que planter des arbres. Mais oui, planter des arbres fait partie de la stratégie française pour la biodiversité et pour lutter contre le réchauffement climatique, car les forêts constituent un puits de carbone précieux. En gros, elles aspirent du carbone. Et pour ça, Macron a de grandes ambitions.
Je veux qu'on ait, dès la sixième de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres.
Waouh, le monde est sauvé.
Planter des arbres pour sauver le climat et relancer la biodiversité, c'est une nouvelle tendance qui a un bon dos. Tout le monde en parle. On parle de compensation carbone. Même des compagnies aériennes proposent de planter des arbres pour compenser les voyages de leurs clients. Mais on ne va pas se mentir, ça ne va pas suffire. Loin de là, toutes les études le montrent. Parce qu'il faut d'abord et surtout réduire les émissions de CO2. Ensuite, parce qu'une plantation d'arbres n'est pas une forêt ancienne. Les deuxièmes séquestrent beaucoup plus de carbone. Par exemple, il est illusoire de penser qu'une tonne de carbone émise peut être tout de suite compensée en plantant des arbres.
Pourquoi ?
Eh bien parce que ces nouveaux arbres ne capteront l'équivalent de cette tonne qu'au bout de plusieurs décennies, du moins s'ils ne sont pas détruits avant ou s'ils n'ont pas brûlé. Et on l'a déjà vu dans Splash, les arbres français et du monde brûlent de plus en plus. Donc avant de vouloir planter des arbres, il faudrait surtout penser à ne pas déboiser et à prendre soin de nos forêts existantes. Et puis il va falloir s'intéresser aux essences qu'on plante. Par exemple, un conifère capte beaucoup moins de carbone qu'un chêne. Bref, ne pensez pas que vos minots vont sauver le monde avec ces arbres. Même si dans une certaine mesure, et quand c'est bien fait, ça peut y participer un petit peu. D'ailleurs, spoiler alerte, même Macron est au courant.
Merci Robin. En somme, on ne va pas pouvoir faire entièrement confiance au gouvernement pour organiser la transition vers une économie plus sobre. C'est très inattendu. D'ailleurs, Adrien, toi aussi tu souhaitais revenir sur des mesures de sobriété et sur le très grand talent que notre cher Bruno Le Maire a montré en la matière. Et bien sûr, je rappelle aux auditeuristes qu'Adrien est rédacteur en chef adjoint spécialisé tech pour le magazine Challenge.
Et oui Emmanuel, nous sommes en hiver, il commence à faire vraiment froid. Chez vous ou au travail, vous regardez le thermostat. Il est à plus de 19 degrés et tout le monde est content. Il y a peu pourtant, en septembre 2022, un peu plus de 6 mois après le début de la guerre en Ukraine, c'était le branle-bas de combat. Tout le monde regardait le thermomètre de son voisin et était devenu spécialiste des économies d'énergie. Il fallait demander aux Français de réduire leur chauffage, pas plus de 19 degrés si on voulait passer l'hiver, en évitant les pannes. Les centrales nucléaires étaient en travaux ou en retard, comme l'EPR de Flamanville. Il fallait tenir coûte que coûte avec le gaz que l'on avait en stock. Frissonner sous un plaid à 19 degrés durant l'hiver 2022, c'était se montrer patriote.
Pour la France !
L'économie d'énergie par degré de chauffage en moins, à partir de 20 degrés, serait de 15 à 20% suivant votre chauffage et bien sûr votre logement. Pour demander aux Français de passer l'hiver au frais, c'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a été monté au créneau sur France Inter.
Nous ne mettrons pas le chauffage tant que la température ne sera pas en dessous de 19 degrés. Donc vous ne verrez plus avec une cravate mais avec un col roulé et je pense que ce sera très bien.
Vous vous en souvenez tous ? Le col roulé de Bruno Le Maire à la place de la cravate.
Pourquoi d'ailleurs cibler le chauffage des particuliers par
Bruno demande ?
Selon les chiffres présentés par le ministère de la Transition écologique, qui date de 2018, le chauffage représente chaque année près de 2/3 de la consommation électrique d'un foyer. On aurait pu aussi bien demander aux Français de se laver à l'eau froide ou de moins faire cuire leurs pâtes par exemple, mais cela n'aurait eu d'effet que sur 11% de la consommation totale des particuliers. Donc, le choix a logiquement porté sur le plus gros poste de consommation d'électricité.
Alors, le col roulé de Bruno a-t-il permis à la France de ne pas connaître de coupures durant l'hiver de l'année dernière ?
Le premier élément de réponse vient du bilan publié le 16 mars 2023 par le gestionnaire du réseau de transport de l'électricité, RTE. La consommation française a bien baissé au cours de l'hiver 2022-2023 de 9%. À partir de ce constat, on peut se demander si les Français ont appliqué les consignes ou si tout simplement l'hiver a été plus chaud que d'habitude et qu'il y avait donc moins besoin de chauffer son logement. Pour RTE, un quart des économies d'énergie sont dues aux températures qui étaient plus chaudes que d'habitude. Donc, trois quarts des économies ont ainsi été réalisées par une stricte baisse de la consommation des Français. Alors là, vous vous dites...
Bruno a demandé...
Bruno a mis un col roulé...
Donc Bruno a gagné et a permis aux Français de passer l'hiver.
Trop fort, Bruno. Oui, peut-être. Mais ce serait bien trop simple de s'arrêter là. Si les Français ont baissé leur consommation, ce n'est pas forcément seulement qu'ils ont baissé leur chauffage et mis des cols roulés. Car il y a un autre élément à prendre en compte, les prix de l'électricité et du gaz qui augmentent régulièrement depuis près de 2 ans. Pour rappel, le prix du tarif réglementé de l'électricité a connu une hausse de 4% sur la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. Puis, le prix de l'électricité a encore augmenté de 15% en février 2023 et de 10% en août dernier. Ce que ne dit pas le col roulé de Bruno Le Maire, c'est que dans ces économies d'énergie réalisées par les Français, il y a probablement des gens qui ont baissé leur facture d'énergie de manière volontaire ou ont mieux réfléchi à leur consommation. Surtout, ce que ne dit pas le col roulé de Bruno, c'est les conséquences des hausses de prix de l'énergie. De nombreux foyers n'ont pas eu d'autre choix que de moins se chauffer car le prix de l'énergie augmentant, ils ne pouvaient tout simplement pas faire autrement. Et ça, ce n'est pas vraiment le col roulé de Bruno pendant l'hiver dernier qui leur a permis de passer l'hiver.
Oh non, Bruno !
Si au cours de cet hiver 2023, les économies d'énergie, les 19 degrés ou le col roulé de Bruno Le Maire ne sont plus de saison, c'est que les centrales nucléaires sont reparties et le pays ne craint plus de coupures. Et si la consommation continue à baisser au cours de cet hiver, ce sera forcément en grande partie grâce à ceux qui ne peuvent plus se chauffer qui contribueront à l'effort énergétique.
On n'a donc pas fini de voir Bruno Le Maire en col roulé et on n'a pas fini de subir des inepties de la part de ce gouvernement, voire pire. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Stéphanie Bascou, journaliste chez 01net.com.
Alors moi, j'aurais aimé terminer ce plage sur une note légère, tenter de vous faire sourire sur une énormité qu'aurait sorti tel politique ou tel chroniqueur. Et puis, bah non, désolé, je peux pas. Nos politiques ont eu la bonne idée de voter une loi immigration juste avant de partir en vacances de Noël.
Bien joué, les gars.
Alors, je vais pas revenir sur le fond de cette loi qui met fin à l'inconditionnalité de l'hébergement d'urgence, qui durcit les conditions d'octroi de prestations sociales comme les allocations familiales pour tous ces étrangers non européens qui abuseraient du système. Oui, vous savez, tous ceux qui traverseraient les frontières dans des conditions déplorables juste pour pouvoir rester sur leur canapé à se gratter les fesses tout en faisant raquer le trésor public.
Quelle sale bande d'enfoirés !
Stéphanie, t'avais pas dit que tu ne parlerais pas du fond de cette loi ?
Oui, alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Oui, je pose aussi les questions. Parce que ce type de mesure a une origine, une petite phrase à laquelle s'attaquent depuis des années des chercheurs, des économistes, des démographes, des sociologues, et qui pourtant revient très régulièrement dans la bouche de l'extrême droite.
Ah non, pas ça.
De la droite.
Ah, quand même.
D'Emmanuel Macron. Ah. Allez, on les écoute. Number one, Éric Ciotti, le président des LR, le 21 décembre, chez nos confrères de France Inter.
Nous sommes le pays, en matière de prestations sociales, le plus généreux d'Europe pour les étrangers. Et ça veut dire que les étrangers, quand ils veulent venir en Europe, ils privilégient la France parce qu'il y a cette générosité.
Number two, Emmanuel Macron, le 25 septembre, lors d'une interview chez France 2 et TF1.
Nous, Français, nous faisons notre part. On a un modèle social qui est généreux. Et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
On n'accueille pas toute la misère du monde ?
Eh non, on n'accueille pas toute la misère du monde. D'ailleurs, on accueille très mal les immigrés en général, comme l'a montré Julie dans son dernier épisode. Et surtout, les immigrés ne choisissent pas la France parce qu'elle offrirait davantage d'aide que ses voisins. C'est ce que rappelle une tribune de l'Institut Convergence Migration qui réunit plus de 700 chercheuses et chercheurs sous l'égide du CNRS. Il y est écrit noir sur blanc, non. La France n'est pas submergée par une immigration hors de contrôle. Et non, nous n'avons pas le modèle social le plus généreux d'Europe qui fait de la France la destination privilégiée pour les migrants. Quand Éric Ciotti ou Emmanuel Macron prononcent ce genre de phrase, d'abord, ils ne se basent sur, je cite, « aucun constat », mais sur des jugements politiques, explique François Héran, qui est sociologue et titulaire de la chaire Migration et Société au Collège de France.
Alors justement, Stéphanie, qu'est-ce que nous disent les chercheuses et chercheurs ?
Ils nous disent trois choses. 1. Il n'y a aucune corrélation entre les conditions dans lesquelles un étranger va être accueilli et le choix du pays vers lequel il va se diriger. Traduction, ce n'est pas parce qu'un pays a des conditions d'accueil ou d'aide qui seraient plus favorables ou plus déplorables qu'une destination va être privilégiée ou mise de côté. En gros, les candidats vont choisir un pays en fonction de deux choses, la diaspora sur place et les chances qu'ils ont de décrocher un emploi, pas en fonction des aides qu'ils pourraient toucher. 2. La France n'est pas la principale cible de demande d'asile en Europe. L'Hexagone, c'est 13% de la population de l'Union européenne et 18% du PIB de l'Union européenne. Mais on n'accueille que 5% des demandes d'asile déposées en Europe par les réfugiés du Moyen-Orient et 18% pour les demandes d'asile d'origine africaine. Prenons les Syriens. En 10 ans, et ce sont des chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Turquie en a accueilli 3,8 millions. L'Allemagne, c'est 770 000 et la France, 38 000. Pour les Afghans ou les Ukrainiens, on est aussi loin d'être en tête de liste des pays européens qui ont le plus accueilli de réfugiés. De quoi faire dire à François Héran, et je cite, « Si notre protection sociale était si attractive, les exilés devraient être bien plus nombreux à choisir la France. » Enfin, 3. Les immigrés ne connaissent souvent pas les dispositifs de sécurité sociale auxquels ils ont droit. Et d'ailleurs, ils les sous-utilisent, selon une étude de l'OCDE parue en 2021.
Alors Stéphanie, est-ce qu'on sait d'où vient cette fable qui associe modèle social généreux et destination privilégiée pour les migrants ?
Tout Tout ceci repose sur la théorie de l'appel d'air, un dogme qui fait partie de la mythologie de l'extrême droite.
Décidément.
Il consiste à dire, si on accueille bien les migrants, si on sauve des naufragés en mer, ça va provoquer instantanément l'arrivée de nouveaux migrants. Et je vous le dis tout de suite, ça ne repose sur absolument aucun fait. Ça n'a jamais été prouvé.
Quelle surprise ! Vraiment étrange ce qu'il se passe.
Et selon cette théorie, il faudrait donc qu'on lutte contre les actions humanitaires, qu'on soit carrément inhospitalier pour éviter que de nouveaux migrants arrivent. Et c'est exactement ce à quoi conduit la loi immigration. On va durcir les conditions du regroupement familial et de certaines prestations sociales, on va compliquer l'octroi de titres de séjour pour les sans-papiers qui travaillent dans des secteurs en tension, et on va imposer aux étrangers qui viennent étudier en France l'obligation de verser une caution à l'État. Tant pis si ça paupérise une population déjà en difficulté, et si ça pose des problèmes à notre économie qui a besoin de cette main-d'œuvre et qui peine à faire venir des étudiants étrangers.
Bon, on a fini par parler du fond de cette loi, finalement. Alors, de mon côté, je vais vous parler de journalisme, ou plutôt d'absence de journalisme. Souvenez-vous, c'était au moment de la réforme des retraites. Léa Salamé et Nicolas Demorand reçoivent sur la matinale la plus écoutée de France Anne-Sophie Alsif et Michaël Zemmour. On connaît bien Michaël ici. On l'a reçu en avril 2022 au moment de la présidentielle. C'est un chercheur hyper sérieux qui a épluché le projet de loi sur les retraites du gouvernement pour être bien sûr de ce qu'il comporte, et notamment pour identifier les gagnants et les perdants. Et voici la manière dont les journalistes lui répondent.
Même des personnes qui ont une carrière complète seront pas garantis d'avoir 1200 euros.
Même des gens, vous êtes sûr de ça?
Parce que c'est vraiment pas ce que le gouvernement dit, les papiers, voilà. Ce que les documents
le gouvernement dit, si vous avez une carrière complète, eh bien ce sera 1200 brut pour tout le monde.
Vous allez me dire, c'est normal que Léa Salamé ne sache pas autant qu'un expert du sujet ce que le projet de loi comporte dans tous ses articles. Et en un sens, c'est vrai, on ne peut pas lui demander de tout connaître sur tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui travaillent avec elle à Radio France pour préparer l'émission. Et normalement, sur un sujet aussi crucial, les journalistes de France Inter auraient dû remarquer que tout le monde n'allait pas recevoir une pension de 1200 euros. D'autant plus que l'opposition avait déjà émis des doutes sur ce que recouvrait ce chiffre. La suite, vous vous en rappelez peut-être, c'est un rétropédalage d'Olivier Dussopt qui a piteusement dû expliquer que oui, bon, en fait, il y aurait des gens qui toucheraient des pensions de retraite plus faibles.
Coup de théâtre.
Alors, pourquoi je vous parle de ça et pourquoi m'attarder sur la matinale d'Inter? Parce que ça devient invivable d'avoir des débats de politique économique orchestrés par des gens qui n'y connaissent rien, qui ne travaillent pas leur dossier et qui, lorsqu'on leur fait remarquer, répondent « Mais pourtant, c'est ce que dit le gouvernement ?»
Un nul plus un nul égale deux nuls, on reste nul.
Au passage, ça ne touche pas que l'économie. On pourrait dire la même chose du traitement médiatique de l'écologie ou des affaires de corruption. J'ai donc envie de remettre le Gérard de l'incompétence journalistique à Léa Salamé, non seulement pour cet épisode, mais pour toute son œuvre, et c'est un prix collectif qui peut être largement partagé. Je reviens sur ce que je vous disais plus haut. On ne peut pas demander à des matinaliers de tout connaître sur tout, et pourtant c'est exactement ce que prétendent ces gens. Et encore, on ne parle pas des pires plateaux télé du groupe Bolloré. Mais sur le service public, on pourrait s'attendre à plus de sérieux, justement. Faire confiance à ce que le gouvernement raconte sur son propre projet de loi, ce n'est pas du journalisme.
On ne peut plus rien dire.
Michaël Zemmour ajoute quelques secondes plus tard dans cet échange « Tout le monde comprend comme vous, c'est pour ça qu'il y a un problème démocratique », je cite. C'est une critique de la com' gouvernementale, bien sûr. Mais on peut aussi l'entendre d'une autre manière. Si vous, Léa Salamé, vous ne regardez pas plus loin que la com' du gouvernement, il y a un problème démocratique. Je conclue en un mot. Du point de vue politique, on est entré dans une phase très noire ces derniers temps. Les journalistes ne peuvent pas se contenter de prendre les déclarations des politiques à leur valeur faciale. Et surtout pas de créer de la polémique facile du type « pour ou contre la petite phrase du ministre ». Il y a une énorme responsabilité à assumer, là. Attendez, je me rends compte que je tape sur les journalistes alors qu'il y a 3 journalistes avec moi en studio. Soyez pas fâchés, je sais que vous faites un travail incomparablement meilleur que celui de Léa Salamé. Hein. Et voilà, c'était la première et la dernière édition des Gérards de l'Écho. Un épisode qu'on aurait dû faire chaque année, réflexion. Fait. Il y a souvent beaucoup de matière, hélas. Mais on ne fera plus de nouvel épisode de Splash ensemble. On a décidé de faire une expérimentation, en fait. Si votre podcast d'écho préféré disparaît pendant un moment, est-ce que les idées reçues et les préjugés dans ce domaine se multiplient? On publiera les résultats dans une grande revue, bien sûr. Et entre-temps, plus sérieusement, Julie, qui ne pouvait pas être avec nous ce matin, mais qu'on associe évidemment à nous, Cathy et Mounia, qui sont passés par ce micro, Robin, Stéphanie et Adrien, vous allez continuer à écrire. Moi aussi, d'ailleurs.
Et oui, car tu es un véritable influenceur, Emmanuel.
On continuera à traquer les fausses bonnes idées de politique économique, à démontrer ce qui est faisable ou pas, à lire de la recherche plutôt que les tribunes d'opinion, et à donner la parole à des experts et des expertes plutôt qu'à des éditorialistes. On vous tiendra au courant de ce qu'on fait et des nouveaux projets qui verront le jour. Et puis, une cérémonie de remise de prix, c'est aussi le moment de remercier plein de monde. En l'occurrence, tous les gens qui ont œuvré pour Splash durant pas moins de 7 ans et qu'on aura du mal à citer intégralement tellement il y a de monde. Je commence par Étienne Tabag et Laurine Melka, bien sûr, qui ont ouvert la voie. Je remercie également les équipes de Nouvelles Écoutes qui ont abattu un travail de Romain pour fabriquer un podcast digne de ce nom, bien produit, diffusée et reconnue. Merci donc à Julien, Nora, Marion et Lila qui nous écoutent en studio, à toute l'équipe de la com et à la régie publicitaire, et un immense merci en particulier à Mathilde qui va bien être obligée de passer derrière le micro et pas seulement pour une pub cette fois-ci. Allez Mathilde, on t'attend.
Allez Mathilde, allez, Mathilde. Allez, 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 allez. Qu'est-ce que vous avez été relou, c'est pas possible. Voilà. Non, c'est une blague, c'est les personnes les plus adorables du monde.
Je remercie également Marine Rowe qui a énormément bossé avec nous avant de voguer vers d'autres latitudes. Enfin, Nantes, c'est pas si loin après tout. Merci enfin à Adrien de l'arrière-boutique, sans qui ce podcast aurait été beaucoup, beaucoup moins drôle. C'est grâce à son talent qu'on a réussi à vous intéresser à l'économie tout en vous faisant sourire et c'était pas gagné. Merci à toute l'équipe constituée par Mathilde et que vous avez pris l'habitude d'entendre dans ce studio, chers auditeurs et auditrices. Et merci à vous, tout simplement, qui avez été fidèles, reconnaissants et reconnaissantes, intraitables, et qui nous avez poussés à continuer cette aventure pendant 7 ans au total, soit la durée de vie moyenne de 2 ministres de l'Éducation nationale. Excusez du peu. Alors on ne se dit pas à la semaine prochaine, mais à bientôt quand même. Splash est un podcast produit par Nouvelles Écoutes, écrit et animé par
nous,
Emmanuel Martin,
Robin Lemoine,
Stéphanie Bascou
et Adrien Schwitter.
Prise de son, montage et mixage, Adrien Beccaria à l'Arrière Boutique Studio.
Réalisé par Adrien Beccaria et Mathilde Jonin.
Produit par Julien Neuville.
Directrice générale adjointe Nora Issem.
Directrice des productions Marion Gourdon.
Directrice artistique Aurore Mailleux.
Chargée de production Mathilde Jonin avec l'aide de Lila Bordelais.